Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
On passe au programme du jour. Cet après-midi, notre grand dossier sera consacré aux techniques de rajeunissement du visage dans son ensemble. Aujourd'hui, terminer le lifting de nos grands-mères qui tiraient toute la peau vers le haut avec un résultat pas très naturel, un peu poupée de cire. Non, la tendance aujourd'hui, c'est le mini-lifting, lifting plus doux, avec notre invité, le docteur Bertrand Matteoli, chirurgien plastique et esthétique à Paris. On fera le point sur ces nouvelles méthodes pour paraître quelques années de moins sans que personne ne sache que vous avez fait de la chirurgie au niveau du visage ou même des paupières. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous ferons un focus cet après-midi sur le bouchon de cérumen. Est-ce vraiment de la cire qui se forme dans nos oreilles? Cela a-t-il d'ailleurs une utilité peut-être? Quand faut-il envisager d'aller chez l'ORL pour éventuellement le retirer? Un grand spécialiste nous répondra sur le sujet, c'est le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, il nous dira tout. Ensuite, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc aujourd'hui. Il sera question d'un vilain défaut, enfin tout dépend du point de vue, mais la maniaquerie peut-elle perturber la vie amoureuse?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Manu. Écoutons-la.
Oui, bonjour Mélanie, Jimmy. J'avais une question pour vous. Je voulais savoir, ma petite qui a 10 mois maintenant, elle n'a toujours pas sorti sa première dent. Et alors que son frère a 10 mois, avait commencé à bien les sortir. Le pédiatre me dit que c'est normal, qu'il n'y avait pas du tout d'inquiétude, mais moi, ça m'inquiète un petit peu. Qu'en pensez-vous? Merci à vous.
Alors, Jimmy, un bébé qui n'a pas de dents, à 10 mois quand même, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas?
Moi,
j'ai eu les miens, c'était à 6 mois. Les deux, le jour quasiment de leurs 6 mois, ils ont sorti leur première dent.
Je pense que nous sommes ravis de l'apprendre.
Oui, alors, c'est bien.
Mes enfants, ils l'ont eu vers 5-6 mois aussi.
On s'en voilà, fout.
On s'en fout. Oui, vous savez, ça n'intéresse que nous, Mélanie. Ça n'intéresse personne d'autre. Alors, il faut savoir que l'âge d'apparition des dents varie en fonction des enfants. Un enfant de 10 mois qui n'a pas de dents n'est absolument pas un enfant qui a des problèmes. Parfois, certains vont en avoir après un an. D'autres,
ah oui,
ça va être très précoce. Et ça ne laisse absolument pas présager le fait qu'un enfant va avoir du retard ou de l'avance en fonction de l'âge d'apparition des dents. Mais ce qu'on sait, c'est que la sortie précoce ou tardive a souvent un caractère familial, un caractère un peu héréditaire. Donc on peut retrouver chez le papa ou la maman des enfants qui ont fait leurs dents un peu plus tardive.
Et je crois qu'à l'inverse total, hein, y a des bébés qui naissent carrément avec une ou plusieurs dents dans la bouche. C'est rare, mais c'est pas grave non plus.
C'est pas grave, c'est un peu flippant pour les parents,
faut
reconnaître,
hein,
naître avec des dents. Mais c'est pas du tout pathologique, ils ont deux petites dents ou une, c'est tout mignon. Alors il faut savoir que ça arrive rarement avant 3 mois. Dans l'immense majorité des cas, ça arrive entre 4 et 7 mois et ça commence par les incisives du bas, où ils vont avoir deux petites quenottes, puis deux en haut, et puis les molaires vers 12 mois. Et il faut savoir que ces dents, il va y en avoir une vingtaine qui va pousser, les dents de lait, et les dents définitives vont pousser à partir de 5 ou 6 ans. Donc ça va les accompagner pendant une longue période de leur vie.
Bon, petit mot, puisqu'on parle de ces premières petites dents toutes mignonnes, faut préciser quand même qu'en fait, dès qu'il y a des dents, il faut en prendre soin.
Oui, puisque souvent, on néglige les dents de lait. On pense qu'elles vont tomber, donc ce n'est pas grave, mais les dents ont une importance capitale.
Même chez le bébé de 6 mois.
Exactement, dans la mastication, dans l'élocution. Et puis elles vont guider la pousse des nouvelles dents, et une dent de lait cariée non traitée peut atteindre la dent définitive qui est en dessous, qui va pousser. Donc, il faut brosser les dents dès les premières dents qui apparaissent. Au début, on frotte simplement avec un peu de sérum, un petit peu d'eau, et puis du dentifrice petit à petit. Demandez conseil à votre médecin.
Merci beaucoup, Jimmy. On va prendre une autre question d'auditeur pour vous. C'est Cédric de Rennes. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Mon père a fait une coloscopie récemment et on lui a dit qu'on lui avait retiré des polypes. Il n'a pas su me dire ce que c'était. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que c'est grave? Merci pour votre réponse.
Jimmy, les polypes, c'est quoi alors? Il y en a plusieurs types, je crois.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle une tumeur bénigne.
Une excroissance.
Bénigne, exactement.
Ouais.
C'est une malformation, une excroissance, qui va avoir une taille variable, qu'on va retrouver au niveau de la muqueuse, du côlon ou du rectum, mais qu'on peut retrouver sur l'intégralité du corps. Vous pouvez avoir des polypes dans le nez, des polypes au niveau de l'utérus, mais là, on parle en particulier des polypes au niveau du côlon.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la cause de la formation de polypes chez certains?
Non, alors on ne sait pas exactement pourquoi les gens vont faire des polypes. On sait qu'il y a des facteurs de risque de faire un polype. Le premier, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on a un risque risque de dégénérescence cellulaire.
On sait que c'est un peu familial aussi.
Exactement.
Hein, ouais.
Si dans votre famille, il y a des antécédents de polype ou de cancer, eh bien, vous avez plus de risques. Et à titre personnel, le fait de faire un polype vous expose à plus de risques d'en faire d'autres. Et le risque principal du polype, ce n'est pas le polype en tant que tel, c'est qu'il peut évoluer vers un cancer. Si on prend les polypes qu'on appelle adénomateux, c'est 3 pour 1000 qui vont évoluer vers un cancer, raison pour laquelle on a tendance à vouloir les retirer.
Est-ce que quand on a des polypes ou un polype, on a des symptômes ?
Normalement, c'est parfaitement asymptomatique, d'où l'idée de vous faire des coloscopies.
Oui, là, il l'a dit, hein, c'est
si
la coloscopie.
Nécessaire. Ouais. Parfois, ça peut être responsable, lorsque le polype est de grande taille, d'un petit saignement qui ne va pas être visible dans les selles, qui va être responsable d'une petite anémie avec une carence en fer. Et puis on fait la coloscopie, on vous en débarrasse.
D'accord, j'allais vous dire, c'est au moment de la coloscopie très souvent qu'on les retire, en fait, parce qu'on les retire toujours, les polypes ?
C'est dans le même temps. Le polype, il ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de visée esthétique ni fonctionnelle, hein, avoir un polype dans le colon.
Visée esthétique, ouais, ça sert bien, à rien. C'est une bonne idée de le préciser.
Je crois que les gastro-entérologues adorent les polypes. Ce sera très beau, un peu comme c'est leur bouquet de fleurs à eux, il faut les respecter.
Ouais,
alors, ils le retirent dans le même temps. En même temps qu'on les voit, on les enlève et on les envoie à un examen anatomopathologique pour vérifier qu'ils n'ont pas dégénéré. Et puis, si jamais ils avaient dégénéré, eh bien, on vous l'a retiré. Le fait de retirer un polype,
on est guéri. Diagnostiqué en même temps,
exactement.
Quasiment, c'est ça. D'accord.
C'est le double bénéfice.
Une fois qu'on les a enlevés, ça fait pas mal, particulièrement. On sort de la coloscopie, on rentre chez soi.
Oui,
hein, c'est
la
ça.
Coloscopie, c'est sous anesthésie générale, donc vous ne sentez rien et puis vous rentrez chez vous.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Cédric, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, aucune hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, docteur Bertrand Matteoli. Bonjour.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Également, nous de vous recevoir. Vous êtes chirurgien plastique et esthétique à Paris et on va se donner un petit coup de jeune avec vous cet après-midi. On va parler du rajeunissement du visage. Alors justement, quand on dit ça, on pense immédiatement tous, hein, lifting. On tire la peau grâce à une chirurgie assez lourde et hop, on a gagné 10 ans. Ça se fait toujours comme ça les liftings en mode poupée de cire, tout tiré.
Oui, un petit coup de baguette magique et en 15 secondes, c'est réglé. Non, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, le principe, c'est toujours un petit peu la même chose. On tire la peau, on tire parfois les muscles. Enfin, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure.
Alors justement, avant de passer aux détails techniques, est-ce que la période un peu extraordinaire qu'on vit avec confinement, déconfinement, le virus qui circule pas, est-ce que ça a eu un impact justement sur votre activité ? Moins de patientes ou plus de patients ? Puisque vu qu'on porte des masques, on se dit c'est pas grave, tant pis, hein, on verra plus tard pour l'esthétique.
Pendant le premier confinement, de toute façon, toutes les drogues étaient utilisées pour l'hôpital, donc on n'a pas pu opérer. Mais depuis, ici, il y a un engouement un petit peu de la chirurgie esthétique, puisque à partir du moment où on n'a pas de vie sociale, on n'a pas de rendez-vous à l'extérieur, on ne peut pas voyager, on ne peut pas se mettre au soleil.
On a plus de sous
on a,
aussi.
On a plus d'argent puisqu'on le dépense moins. C'est la période idéale pour se faire opérer puisqu'on va profiter du temps de recouvrement où on va être caché pour récupérer de l'intervention chirurgicale.
Est-ce que vous pensez que justement le télétravail, par exemple, le fait de ne pas aller au boulot, mais néanmoins d'utiliser quand même beaucoup plus les outils informatiques comme les visioconférences où on se voit dans une petite lucarne, là, pas toujours avec un angle favorable, la bonne lumière, etc. Ça n'a pas mis le nez aussi, pour certains, sur des défauts qu'ils n'avaient pas forcément vus jusque-là et qui maintenant deviennent un peu obsessionnels.
Si, vous avez tout à fait raison. Ce qui est drôle, c'est qu'avant, dans une époque ancienne, un très grand pourvoyeur de chirurgie esthétique, c'était les photos de mariage ou les photos de réunion de famille, puisqu'on prenait des photos de trois quarts ou de profil, et les femmes se voient toujours de face dans un miroir, elles ne se voyaient pas de profil. Et elles découvraient cette photo en regardant leur double menton ou les bajoux qui commençaient à fesser, et elles se disaient « mais non, mais c'est pas moi, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose ». Et c'était un grand pourvoyeur pour nous de chirurgie esthétique. Maintenant, avec les progrès modernes, avec effectivement les selfies, les Instagram, les choses de genre, c'est aussi un grand pourvoyeur de chirurgie esthétique. Mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une déviance et avec les morphings, avec les possibilités de transformation des images, les jeunes patientes peuvent se dire « c'est exactement à ça que je voudrais ressembler ». Et malheureusement, techniquement, parfois, ce n'est pas faisable. Donc, il faut faire attention à ce biais-là,
ouais.
Peut changer un petit peu les choses.
C'est pour ça que je n'utilise pas de filtre comme ça. Voilà,
vous êtes parfait, Jimmy.
Vous avez raison, ça fait mal. Quand on se regarde dans une photo, on dit « ah, je ressemble à ça ». Bon, bref, c'est toute une autre histoire. Alors, de quand datent les premiers liftings ? Est-ce que c'est une chirurgie qui est très ancienne ?
Les premiers liftings, ils datent du début du XXe siècle. Sarah Bernhardt, quand elle avait fait une tournée aux États-Unis, je crois que ça devait être en 1905 ou quelque chose de genre, avait fait un petit lifting déjà. Puis en France, il y a eu quelques chirurgiens. Il y avait une chirurgienne française, enfin parisienne, qui faisait des liftings chez elle à son cabinet. C'est-à-dire que les femmes venaient.
Dans sa cuisine,
chez elle. On retirait un tout petit peu de peau. sous anesthésie locale, et on voyait la patiente qui prenait le thé avec le chirurgien une demi-heure après.
C'est pas vrai.
Et ça, c'était donc, disons, dans les années 30 à peu
c'est
près.
C'est plus comme ça que vous procédez aujourd'hui, je crois.
Pas exactement. Et puis après, il y a toujours les progrès qui ont été faits grâce à la chirurgie de guerre, mais enfin, malheureusement,
c'est
la chirurgie
cassées,
militaire a fait beaucoup avancer la chirurgie plastique. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gros progrès qui ont été faits par des chirurgiens suédois, un chirurgien qui s'appelait Skoog, un chirurgien français près qui s'appelait Paul Tessier, qui a mis en évidence certaines structures du visage qui permettaient d'avoir une chirurgie différente. Et puis, il y a aussi eu un très grand chirurgien brésilien avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir travailler il y a quelques années, qui s'appelait Ivo Pitangui, qui a mis au jour le lifting très naturel et qui opérait énormément de personnes du monde entier.
C'est ce que vous venez de dire, le lifting très naturel, parce qu'on est d'accord. Alors moi, je ne sais pas, je crois que c'était les années 90, on voyait des femmes qui ont maintenant un certain âge, hein, qui ont été vraiment tirées, voire massacrées quand même, hein, parce qu'elles sont toutes tirées, elles ont toutes la même tête. Ça, aujourd'hui, on n'est plus dans cette demande-là
non,
du tout. Hein,
non, ouais. Parce que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'il y avait une chirurgie qui faisait des très bons résultats. Mais il y a des chirurgiens qui disaient... La beauté est naturelle, mais la perfection est chirurgicale. Donc, à rechercher la perfection, à vouloir trop bien faire, ils ont fait trop.
Ils ont fait des carnages
aussi.
Commencé,
hein, en plus, il y avait le développement de la chirurgie crânio-faciale. Donc, des chirurgiens prenaient un bout d'os du crâne pour leur mettre au niveau des pommettes.
Oh là là, ouais.
Et c'était une chirurgie très, très lourde qui transformait vraiment les gens. Et ce n'était pas une chirurgie de rajeunissement, c'était une chirurgie de transformation.
Ah
donc,
oui,
il y a
eu
des abus qui ont été faits à une certaine époque. Et puis, comme toujours, on fait des choses, on fait des abus, puis on revient à des choses beaucoup plus naturelles.
Choses plus nuancées, ouais, c'est ça.
Alors, vous allez me corriger, peut-être que je dis n'importe quoi, mais est-ce que c'est une chirurgie qui est plus réservée aux femmes, en tout cas plus de demandes auprès des femmes? Et elles ont quel âge, les patientes que vous opérez en moyenne?
Avec des listes.
Alors, il y a à peu près, je dirais, 90% de femmes, à peu près, pour 10% d'hommes.
Vous avez raison, Jimmy.
L'âge, c'est, disons, entre 45 et 70, 80 ans. Moi, je pense que la meilleure période, c'est la périménopause, c'est-à-dire juste avant la ménopause. C'est-à-dire la peau est encore de bonne qualité, les tissus sont bien, la patiente est jeune, donc en bonne santé. Et ça va permettre de lui passer le cap qui n'est pas forcément agréable justement de la ménopause et de garder une bonne tonicité, une bonne expression et un visage serein pendant une dizaine d'années.
Et docteur Matteoli, avec l'engouement qu'il y a quand même, on le sent aussi ces dernières années pour les injections type Botox et acide hyaluronique, ça n'a pas fait chuter quand même la demande pour vraiment les vrais liftings? Parce que finalement, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas corriger avec des injections?
Les deux sont tout à fait complémentaires.
Ouais.
Avec le Botox, vous allez traiter les rides d'expression. C'est-à-dire les rides du front, les rides du lion, les rides de la patte d'oie sur le coin de l'œil.
J'ai l'impression qu'ils me regardent. Non, c'est moi.
Celles qui sont vraiment les rides d'expression. Mais vous n'allez pas traiter ce qui tombe.
Et le lifting, pas. Et le masque, on ne voit pas.
Un lifting, ça s'appelle lifting. Lifting, ça veut dire monter.
Ah oui,
et
d'accord.
Et monter, c'est...
Ce n'est pas du tout la même indication.
Ce n'est pas du tout la même indication. Et quand ça tombe, vous pouvez injecter ce que vous voulez. Ça ne va pas faire remonter. Au contraire, c'est là où il peut y avoir des abus. C'est qu'à force d'injecter trop d'acide hyaluronique ou trop de graisse dans le visage, ça fait des femmes qui ont des visages complètement bouffis, mais qui ne sont pas améliorées sur le plan de la définition. Un lifting, c'est fait pour bien redéfinir les traits, c'est remettre en tension normale les traits du visage, c'est-à-dire donner une expression et remettre les muscles et la peau du visage comme elle était il y a 10 ou 15 ans avant.
Docteur Matteoli, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Bertrand Matteoli. Vous êtes chirurgien plastique et esthétique à Paris. Et avec vous, on s'intéresse aux techniques de chirurgie actuelles pour rajeunir le visage. Jimmy est toutouille, hein, il est passionné cet après-midi, je le sens. Vous avez dit qu'il y avait 10% seulement d'hommes, mais je suis sûre qu'il en sera dans pas longtemps. Alors il y a quelques minutes, docteur, vous nous avez expliqué qu'aujourd'hui, en matière de rajeunissement du visage, la demande, c'est vraiment du naturel, des liftings plus doux, je ne sais pas si on peut dire ça, mais justement, docteur Matteoli, au bloc, qu'est-ce qui a changé finalement d'un point de vue technique pour que vous arriviez à un résultat, donc vrai coup de jeune, hein, parce que vous m'avez montré des photos et c'est assez exceptionnel, hein, on voit qu'elles font tout d'un coup beaucoup plus jeunes, mais on ne pourrait pas dire qu'elles ont fait de la chirurgie. Qu'est-ce qui est différent techniquement? Vous incisez toujours au même endroit? Enfin, comment ça se passe au bloc?
D'abord, ce qui est très important, c'est avant le bloc. C'est-à-dire bien étudier la peau de la patiente, la manière dont les choses tombent. Parce qu'en fonction de ça, on va... Si vous voulez, quand on fait un lifting, il y a plusieurs gestes. D'abord, on va décoller la peau. Ensuite, on va éventuellement travailler les muscles pour les remettre en tension normale, en normotension. Puis ensuite, on va enlever la peau qui est en trop. Mais ce qui va changer, il va donner un résultat plus ou moins différent dans un lifting, ça va être la manière dont on va tirer la peau. On peut la tirer vers l'arrière, on peut la tirer vers le haut. Et en fonction des différents niveaux du visage, que ce soit le cou, que ce soit la face ou que ce soit les tempes, on ne va pas forcément tirer dans les mêmes directions ni à la même force. Donc ce qui est très très important, c'est pour ça que l'expérience du chirurgien, à mon avis, est fondamentale. Ce qui est très important, c'est l'étude préliminaire, ce qu'on va faire. Une fois que la patiente dort, alors un lifting, ça peut se faire sous anesthésie locale, exceptionnellement, mais ça peut se faire.
Il faut avoir le courage quand même.
Il faut avoir le courage. Ça dure, un lifting, ça dure entre, ça dépend des chirurgiens de ce qu'on fait, mais ça va durer entre 1 heure et 4 ou 5 heures.
Quand on va réveiller à se faire tirer la peau, moi je crois que je préfère m'endormir.
Ça peut se faire, moi j'en fais assez souvent sous anesthésie locale. Avec de la musique, en prenant son temps, en étant décontracté, ça se passe bien. Puis ça dépend aussi de l'importance du lifting. Si c'est un lifting localisé, ça peut se faire très facilement. Sinon, on fait ce qu'on appelle une neurolepte analgésie, c'est-à-dire qu'on vous shoot un peu plus l'anesthésie locale, mais le plus souvent, c'est sous anesthésie générale. Ça dure à peu près 2 heures. Le principe, c'est qu'on commence très souvent par faire une petite liposuction du cou, ce qui permet de dégraisser la région cervicale, et puis de faire un décollement léger. Ensuite, on va inciser la peau, c'est-à-dire qu'on va couper la peau au niveau de la tempe dans les cheveux, puis ensuite devant et dans l'oreille,
d'accord,
puis derrière l'oreille et au niveau de la nuque.
Ah à partir de ce moment-là, la nuque, là, d'accord.
À partir de ce moment-là, on va décoller la peau jusqu'à un certain point, parce que ça ne sert à rien de trop décoller, parce que plus on décolle, plus on prend des risques sur le plan de la vascularisation de la peau. Mais par contre, si on ne décolle pas assez, on aura beau tirer comme un malade, ça ne va pas venir.
Oui, donc l'expérience, ça compte quand même.
Il y a toute une anatomie à bien connaître pour avoir des bons résultats. À partir du moment où on a décollé la peau, on va retendre ou pas, ça dépend des chirurgiens, les muscles qui se sont affaissés, les remettre en tension, on va les suturer l'un à l'autre. Et puis après, une fois que les muscles sont suturés, la peau en trop, elle remonte naturellement et on découpe jusqu'à en trop. Et puis après, on suture, on fait un gros pansement. Et l'intervention est terminée. À partir de ce moment-là, on va en salle de réveil pendant à peu près 1 heure ou 2, puis on remonte dans sa chambre. L'intervention, elle peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire que vous ressortez le soir, ou vous passez une nuit à la clinique, et puis vous sortez le lendemain sans aucun pansement, sans rien. C'est-à-dire que vous lavez les cheveux, et vous sortez. Alors l'idéal, d'avoir des cheveux un peu longs pour pouvoir planquer les cicatrices et puis les petits bleus qui vont suivre.
Justement, est-ce que vous, les cicatrices, parce que tout ce que vous décrivez, on se doute que finalement, il y a beaucoup de travail, vous dites 2, 3, 4, 5 heures. Moi, pour monter un meuble IKEA, je mets à peu près autant de temps, mais je ne fais pas autant de choses que vous. Donc, les cicatrices, elles restent toutes petites, elles ne sont pas visibles.
Les cicatrices, la seule cicatrice qui va être visible, c'est celle qui est au niveau de l'oreille, puisque les autres, elles sont dissimulées dans les cheveux.
Ouais, donc, on ne voit rien,
Donc, celle devant l'oreille, elle va être... Alors, les cicatrices, comme toute cicatrice, c'est indélébile. Et la cicatrice devant l'oreille, elle va être visible, disons, pendant
le temps qu'elle
une semaine, 10 jours.
Quoi,
et puis après, elle peut tout à fait se maquiller. Et comme... on l'a fait de telle manière à ce qu'elle se dissimule dans les plis naturels de l'oreille. 6 mois après, même en regardant de près, elle ne se voit pas du tout.
Personne n'y voit quoi que ce soit, c'est ça. Et j'ai entendu dire aujourd'hui qu'on pouvait à la fois combiner injection et lifting. Vous faites ça, c'est possible. Et même injection de graisse, j'ai entendu ça.
Oui, bien sûr. Souvent, on profite du fait que la patiente dorme pour pouvoir, parce que les injections de Botox ou d'acide hyaluronique ou de graisse, c'est jamais très agréable. Donc, on profite que la patiente dorme pour faire les injections. Et on peut combiner, bien sûr, les deux. C'est souvent ce qu'on fait. Alors, les injections de graisse, c'est très à la mode en ce moment.
Mais on n'aurait pas à dire, c'est génial, on vous prend votre propre graisse. La graisse, c'est plein de vertus, plein de cellules souches. C'est du marketing ou c'est vraiment si intéressant
non,
que ça
c'est pas que du marketing, mais c'est à la mode. Ouais. Donc, comme tout ce qui est à la mode,
donc
il faut le faire. Mais non, c'est une très bonne idée.
Vous en faites un peu, vous
J'en fais quand il y a besoin de le faire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit systématique. Il y en a qui systématiquement vont injecter de la graisse partout.
C'est quoi l'indication pour mettre de la graisse à qui on en
graisse,
met
La graisse, ça peut être intéressant pour bien dessiner des pommettes qui sont... souvent, les pommettes, quand elles se sont affaissées, le fait de les remonter en faisant le lifting, ça suffit à remettre en place ce qui est tombé. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'injecter de graisse. Parfois, il y a au niveau temporal de la tempe, il y a la graisse qui entoure le muscle temporal, elle s'est un petit peu amoindrie. Donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant.
Ça va repulper un peu,
ça va gonfler, ça va repulper. Il ne faut pas en mettre trop. Puis, la graisse, le problème de la graisse, c'est que, en théorie, c'est parfait, mais quand vous injectez une certaine quantité de graisse, vous ne savez jamais exactement combien va rester au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an.
Oui,
et puis ça peut être asymétrique, c'est-à-dire que ça peut prendre à droite et pas à gauche.
Oula.
Donc c'est pas
si miracle que ça, Jimmy. Vous en avez parlé souvent.
C'est très bien, mais il faut le faire à bon escient. Et c'est ça, il faut le faire à bon escient et pas abuser.
Est-ce que c'est douloureux comme type d'intervention, au final, le lifting? Parce que vu tout ce que vous décrivez...
Alors un lifting, c'est pas douloureux, mais ça tire. Parce que le principe, c'est de tirer. Donc, ça tire. Vous avez 700
sensations
de tension au niveau du cou. ça vous donne cette impression d'être cartonné.
Pendant combien de temps, ça?
Alors
un mois?
Non, bon, un peu moins, pendant une bonne, en tout cas une bonne semaine.
Quinzaine,
et ça fait peur. Très souvent, ça fait peur deux jours après, parce que deux jours après, vous avez le contre-coup de l'anesthésie. L'anesthésie, c'est des drogues. Donc le lendemain, vous êtes shooté, vous êtes bien, vous êtes euphorique, vous avez fait l'intervention,
après,
vous êtes content, ça s'est bien passé, le résultat, il est superbe. C'est magique, le chirurgien, c'est un dieu, tout va bien. Le jour d'après, vous êtes rentré.
On est un peu enflé.
Le jour d'après, vous êtes rentré chez vous.
On vous appelle, je vous déteste, docteur.
Oui, non, mais c'est un peu ça. Vous êtes rentré chez vous, vous avez le contre-coup de l'anesthésie, la gueule de bois, c'est là où on est le plus gonflé.
C'est le jour où il éteint son téléphone, le deuxième jour.
Non, mais c'est pour ça que moi et mon assistante, on sait systématiquement, si vous voulez, il y a un peu un coup de cafard deux jours après.
Ouais,
on se dit, merde, j'ai fait une connerie, pourquoi je me suis fait opérer alors que j'avais besoin de rien.
Oui, ouais. Mélanie, c'est normal. C'est normal ce que vous avez deux jours après.
Non, il faut le savoir, ça dure une journée
c'est
ou deux.
Normal.
Et puis après, ça redevient même. Mais ça fait pas mal.
D'accord. Et très rapidement, combien ça coûte un lifting basique? Alors je sais qu'il y a des fourchettes très différentes.
C'est variable, mais disons que ça va à partir de 5 000 euros.
Et
ça peut aller. Non, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale.
Très bien. Docteur Matteoli, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Bertrand Matteoli. Je rappelle que vous êtes chirurgien plastique et esthétique à Paris et que, avec vous, donc cet après-midi, on s'intéresse aux techniques de rajeunissement du visage. Alors, on a parlé surtout lifting juste là, mais on va s'intéresser à présent un peu aux paupières, au regard. C'est souvent une zone qui vieillit peut-être plus rapidement. Ce regard qui est plus celui de nos 20 ans, on va dire. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une raison physiologique à ça?
Les paupières supérieures, chez la femme, c'est souvent la première chose qui vieillit, c'est le premier motif de consultation sur le plan de l'âge. C'est vrai, généralement vers 40-45 ans. Souvent, la femme vient en disant « j'ai du mal à me maquiller et j'ai les paupières qui commencent à tomber ». Alors pourquoi? Parce que la peau des paupières est très fine, donc elle a une texture qui va plus facilement se friper, parce que les paupières, c'est beaucoup plus exposé au soleil.
Donc ça va s'abîmer, vieillir la peau.
Et donc c'est une intervention qui est toute simple à faire, qui peut se faire sous anesthésie locale, qui consiste au début on va dessiner la portion de peau qu'on va resséquer. La cicatrice, elle est cachée dans le pli de la paupière supérieure, donc elle se voit quand vous avez les yeux fermés, mais elle ne se voit pas du tout quand vous avez les yeux ouverts.
Donc quand vous dormez, donc personne ne le voit par son mari, quoi, en gros, c'est ça?
Absolument. Et ça dure à peu près une demi-heure à faire en salle d'opération. On enlève de la peau en trop. Parfois, il y a des petites boules de graisse qui donnent un aspect un peu fatigué au niveau du coin de l'œil, qu'on enlève s'il y a besoin. Puis après, on fait une petite suture avec des fils qu'on enlève 5 jours après.
Mais vous dites que c'est une zone pour laquelle la femme va souvent se plaindre, mais c'est une zone qu'on peut camoufler pourtant avec le maquillage. Elles ont du mal à se maquiller, mais malgré tout, avec le maquillage, on remarque, parce que moi, j'ai jamais remarqué une femme avec des... Souvent, les rides, on les observe.
Que souvent, ça donne aussi un air fatigué.
Ah,
vous voyez, ça
Mélanie,
donne un air fatigué, ça donne...
Il est méchant.
Non, si, c'est une zone très, 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 très fréquemment évoquée.
Est-ce qu'il y a des personnes, justement, des ethnies ou des types de peau qui vont faire qu'elles ne vont jamais avoir cette peau qui va s'affaisser ou...
D'ailleurs, au niveau des yeux, mais au niveau du visage tout court.
Est-ce que la grosse différence qui peut exister? Non, pas tellement, parce que pour que ce soit une peau blanche, noire ou jaune, le vieillissement, il sera à peu près pareil. La peau noire, elle est souvent d'une tonicité meilleure, donc elle va peut-être avoir moins besoin d'une chirurgie des paupières. Chez les Asiatiques, c'est très différent, parce que le tarse, c'est-à-dire le cartilage, les Asiatiques n'ont pas de plis comme nous. Donc faire une chirurgie des paupières chez les Asiatiques, c'est une technique spéciale qu'il faut connaître. Mais sinon, ça change. Il n'y a pas de différence fondamentale.
Pour ce qui est des paupières, vous m'avez expliqué en préparant cette émission que même parfois pour les plus âgés, on va dire même 75 ou 80 ans par exemple, on vient vous demander des chirurgies. Mais alors là, pour des raisons vraiment médicales, fonctionnelles,
c'est-à-dire que c'est rare, mais si la paupière est vraiment très tombante et très très lourde, ça peut empêcher à la patiente ou au patient de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir lire. Et souvent, ils disent « je suis obligé quasiment de mettre un stéristrie pour soulever la paupière parce que je ne peux plus lire ». Dans ces cas-là, on peut faire exceptionnellement une demande de prise en charge avec la Sécurité sociale pour une intervention qui pourra être, si la prise en charge est acceptée, sera prise en charge.
Alors, vous avez dit, c'est souvent la paupière du haut qui commence par un peu être abîmée en quelque sorte. Mais est-ce qu'en bas, on peut voir exactement la même chose? Une paupière qui s'affaisse, qui est de moins bonne qualité?
Alors, en bas, ce n'est pas le même problème. En bas, ce qui se passe, c'est que le premier motif de consultation, ce sont des poches sous les yeux. Les poches sous les yeux, c'est des poches de graisse, il y en a trois, qui vont se gonfler d'eau, et ce qui fait que les gens viennent en disant, à chaque fois que je vais au bureau, que je vois des amis, ils me disent que j'ai l'air fatigué alors que je suis en pleine forme, j'ai bien dormi, j'en ai marre, on dit toujours que j'ai une sale mine, Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pas tellement une question de peau, c'est vraiment une question de poche. Dans ces cas-là, on enlève les poches. Alors, pour enlever les poches...
On
peut pas la liposucer parce que les poches, elles sont... Il y a beaucoup de vaisseaux, donc il faut coaguler chaque petit vaisseau avant de le couper. Mais il y a deux techniques. En gros, il y a une technique, on va passer au ras des cils. On va couper la peau au ras des cils, on va décoller la pommette et puis on va enlever ces poches de graisse et puis on enlève après le petit peu de peau qu'il peut y avoir en trop. Ça permet à la fois d'enlever les poches et puis de faire une sorte de petit lifting de la paupière, donc d'enlever les petites ridules qu'il y a sous les paupières. La deuxième technique, qui est plus simple, consiste à passer par l'intérieur de la conjonctive, c'est-à-dire par l'intérieur de la paupière. On arrive directement sur les poches et on les enlève.
Alors, ça donne des frissons quand même, hein. Passer par l'intérieur des paupières.
Ça va très vite et c'est rapide, mais on est loin de l'œil. Hein.
Ouais. Mais oui, j'allais vous dire, si près de ma cornée, moi j'aurais peur que vous ratiez.
Les paupières inférieures, moi, personnellement, je les fais toutes sous anesthésie générale. Ouais. Justement, j'ai des collègues, des amis qui le font sous anesthésie locale. Mais je trouve qu'il vaut mieux, pour être sûr que la personne ne bouge pas d'un moindre millimètre, en plus, c'est douloureux quand on le fait sous anesthésie locale, de faire ça sous anesthésie générale. Mais ce n'est pas une intervention compliquée.
Bon, je ne suis pas tout à fait rassuré, mais je vous fais entièrement confiance.
Quand il aura besoin, il viendra vous voir.
Alors, vous avez donné un petit peu la technique justement pour opérer les paupières supérieures, mais est-ce que ça laisse aussi des cicatrices ? Parce que du coup, on se demande, mais elles vont être visibles ? Où est-ce que vous les cachez ?
La cicatrice, elle est dans le pli de la paupière. Alors, plus la paupière tombe, et plus la cicatrice va être longue. Parfois, elle descend un petit peu vers la tempe. Vous voyez, donc dans ces cas-là, elle va déborder un peu. Mais dans ces cas-là, on se débrouille pour la placer dans une ride pour pas qu'elle se voie. Et puis parfois, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on l'associe avec un lifting ou un lifting temporal qui va remonter la queue on fait souvent des interventions combinées.
Justement, vous faites souvent paupières supérieures, paupières inférieures, ou parfois il n'y a qu'une demande et pas l'autre, quoi.
Souvent, ça dépend un petit peu de l'âge, mais très souvent, disons qu'une femme jeune de 40-45 ans, c'est paupières supérieures. D'accord. Simple. Et c'est une très bonne manière d'aborder la chirurgie esthétique parce que ça va décomplexer la femme vis-à-vis de la chirurgie esthétique. Elle va se rendre compte que ce n'est pas grand-chose. Les suites sont vraiment très simples, hein. C'est-à-dire que 5 jours après, une fois qu'on a enlevé les fils, vous allez encore avoir un peu de bleu, vous allez reprendre vraiment votre expressivité du visage, ça met un bon mois. C'est-à-dire que moi je dis toujours, si c'est pour aller voir des gens que vous ne connaissez pas très bien, au bout d'une semaine ça peut passer, maquiller. Si vous devez voir quelqu'un de votre famille où on va vous scruter et on va vraiment vous observer, il faut un bon mois pour retrouver l'expressivité de votre regard.
Docteur Matteoli, est-ce que c'est une opération qui est définitive, le regard ? Ça s'appelle d'ailleurs la blépharoplastie, pour ceux qui voudraient connaître le terme exact. Je veux dire, est-ce que la peau que vous avez donc tirée au niveau des paupières, et donc avec cette petite cicatrice qui ne se voit pas au pli de la paupière, est-ce que ça risque, si on le fait à 40 ans, parce que vous disiez typiquement c'est la première demande des femmes à 40 ans en général, redressez-moi ce visage, rendez-moi en tout cas du peps dans le regard, est-ce qu'à 70 ans, du coup, elles vont devoir repasser sur le billard pour cette intervention ?
Pas forcément, mais ce qui se passe, c'est que une fois qu'on vous a opéré, vous allez continuer à vieillir.
Ouais.
Donc vous allez
la peau va
encore se relâcher, que ce soit pour un lifting. C'est pour ça que on dit généralement un lifting ça dure 10 ans.
Ah oui.
Ça veut dire quoi, ça dure 10 ans ? C'est-à-dire que si on fait une photo de vous maintenant, que je vous opère dans 5 minutes, vous revenez dans 10 ans, vous serez mieux dans 10 ans que maintenant.
D'accord.
Mais vous allez continuer à vieillir parce qu'on vieillit, il y a la pesanteur, les choses de genre. Et pour les paupières, c'est pareil. Vous allez les paupières vont continuer à retomber, mais on peut réopérer 10 ans après, refaire une intervention sur les paupières éventuellement.
Les patientes, elles voient un effet au bout de combien de temps ? Est-ce que ça fait un peu l'effet qui se coule ? C'est-à-dire que comme pour le lifting, elles sont très contentes au début, le lendemain ça va moins bien et puis après ça passe ? Ou d'emblée on est content, on a le résultat de la blépharoplastie ?
On est content d'emblée, sauf que on a des petits bleus et on est un peu gonflé.
Donc on peut partir au travail tout de suite alors.
Une blépharoplastie, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter au moins une semaine.
Donc là,
ça dépend. Si vous pouvez travailler avec des lunettes de soleil en disant que vous avez une conjonctivite.
Si je vous vois arriver avec des lunettes de soleil, je saurais ce qui s'est passé.
C'est une intervention chirurgicale, donc ça implique des suites opératoires avec un gonflement, avec des bleus.
Et puis là, le télétravail, du coup, c'est pour ça qu'il y en a peut-être un peu plus, non ? Oui. Je ne sais pas, je vous
l'ai dit. On peut rester
à la maison, on est avec l'ordinateur.
Oui, absolument. Sauf que le masque, on ne le met pas sur les yeux quand même.
Non, mais si on est en télétravail tout seul, là, sans visio, il n'y a aucun souci, on est tranquille pour se remettre d'une chirurgie. Qu'est-ce que vous pourrait faire pour les cernes de Jimmy, parce qu'on a parlé des poches.
Ah oui,
mais il y a aussi
ça.
Ceux qui ont les cernes, les valises, là, comme
les,
lui.
Les yeux cernes... de panda. Ma femme appelle le panda.
Voilà,
de
le
temps
panda
en temps.
Là, à côté de moi, mais on peut faire
cernes,
quoi pour
les
lui.
Les cernes, c'est très compliqué parce que.
On peut rien faire pour vous.
Les cernes, c'est une question de. C'est une question de lumière. En gros, c'est la lumière qui passe à la paupière à cet endroit, la paupière inférieure. À cet endroit-là est très très fine.
Mais pourquoi lui juste... il a des grosses valises et moi j'en ai pas par exemple
Ça s'appelle le maquillage, Mélanie Gomez. Je pense
non,
que tu vois.
Pas du tout.
Et juste derrière il y a l'os. Donc la lumière se projette à travers la paupière, elle se reflète sur l'os et c'est ça qui fait ce côté cerné.
Ah, c'est
et
pas donc... sa faute, c'est la faute de la lumière. Alors.
Voilà, c'est un problème. Non, c'est vraiment ça. Un problème. De... Alors traiter les cernes, l'idéal c'est donc d'interposer un tissu entre l'os et la. Si vous voulez, c'est d'épaissir la peau.
D'accord.
Donc pour que la peau soit plus épaisse et moins en contact de l'os.
Je peux
donc
lui prêter
ça,
un peu de graisse pour mettre dans les paupières.
Soit on peut injecter de la graisse,
ouais.
On peut injecter de l'acide hyaluronique.
Oh, aussi,
ça
d'accord.
Marche aussi très bien, mais l'acide hyaluronique, il faut le faire à peu près tous les 6 mois. Il faut être très prudent. Enfin, c'est pas si facile que ça. Et la chirurgie pour le traitement des cernes, ça marche pas bien.
Justement, ah ouais. En parlant de prudence, vous avez dit ce qui est important, c'est un chirurgien qui a de l'expérience, un chirurgien qui pratique beaucoup et qui sûrement pratique cette intervention. Comment est-ce qu'on fait pour choisir justement un chirurgien esthétique quand on veut faire une blépharoplastie? Il faut que ce soit quelqu'un qui
on
en fasse souvent.
On regarde ses copines, moi je dirais.
Oui, ça
non,
c'est bouche à oreille.
Vous avez raison. Ouais. Maintenant, ce qui a beaucoup changé depuis disons une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est que maintenant quasiment, honnêtement, tous les chirurgiens esthétiques, enfin plasticiens, sont bien formés. Ce qui n'était pas forcément le cas, parce que c'était empirique, on se formait un peu n'importe où. Enfin, maintenant, c'est vraiment
ceux
très bien coordonné
plaque, là,
dans les
villes
universitaires, il y a un cursus et tous les chirurgiens sont bien formés. Moi, je pense que le plus important, c'est le bouche à oreille. Si vous avez une amie qui a été opérée, vous avez trouvé que le résultat est bon,
ouais,
une
ça.
Autre amie, allez voir ce chirurgien, a priori, c'est qu'il fait un bon résultat. Après, il faut qu'il y ait un bon feeling, ça c'est très important. Il faut que vous ayez l'impression que le chirurgien il vous écoute, qu'il ait compris. Moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est qu'on ait compris la même chose. Parce que moi, je peux penser que vous avez besoin de telle et telle chose. Je vous connais moins bien que vous, parce que je vous connais depuis... Quand on voit quelqu'un en consultation, on le connaît depuis 5-10 minutes.
Ouais.
Quoi. Donc même en scrutant, en regardant, vous voyez, on a une approche différente. Mais ce qui est important, c'est que... Parce que ce qui peut se passer en chirurgie, la seule chose, à mon avis, à part l'accident, mais qui ne doit pas arriver si le chirurgien est qualifié, enfin des accidents, ça peut arriver malheureusement, mais c'est exceptionnel. Par contre, ce qui peut arriver, c'est un malentendu. Et ça, c'est cette chose-là, ce qu'il faut régler avant. C'est-à-dire que moi, je fais toujours, par exemple, quand je fais une intervention, juste avant l'intervention dans la chambre, ou avant l'intervention, je dis, on est bien d'accord, hein, c'est bien ça ce que vous voulez. C'est ça ce que... Parce que...
C'est important, ça.
C'est très important.
Ouais.
Puis, il faut se sentir en confiance.
Et vous aidez, juste, par exemple, je sais pas, on a des photos où vous faites avant, après, voilà comment vous êtes, voilà comment on peut espérer.
Alors, il y a ce qu'on appelle le morphing. Moi, je n'utilise pas le morphing. Par contre, moi, ce que je montre, c'est des photos de patientes, ouais. Avant, après. Parce que ça me perd, ouais. Si vous voulez, ça va donner mon goût. Elle va voir ce que je trouve beau.
Ouais.
Parce que
si
forcément,
convient,
je ne vais pas
voilà.
Montrer des mauvais résultats. Ça me paraît...
Les ratés, il les cache. Cela, c'est un tiroir du
non, mais parce que il faut se méfier de toutes les publicités sur Internet, parce que maintenant, on peut trafiquer ce qu'on veut en photo. Mais je vais montrer des résultats que je trouve beaux. Enfin, que je trouve très ouais. Acceptable
si elle
pour moi.
Et si elle trouve beau comme vous, c'est que les gens
si
vous entendez bien.
Si elle trouve que c'est pas bien, faut surtout pas qu'elle se fasse opérer par moi.
C'est ça. Mais c'est la base déjà, l'entente entre le chirurgien et la patiente. Merci beaucoup, docteur Matteoli, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus donc sur toutes ces techniques actuelles de rajeunissement du visage, un coup de jeune efficace mais discret. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. On va passer à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Focus sur le bouchon de cérumen. Vous connaissez bien Jimmy.
Ah, hein,
bien, on va voir si nos auditeurs aussi, savez-vous vraiment si c'est de la cire qui se forme dans nos oreilles? Cela a-t-il peut-être une utilité? Et quand faut-il envisager d'aller chez l'ORL pour éventuellement la retirer? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
C'est aux oreilles, c'est un bouchon qui fait qu'on ne peut plus entendre.
C'est au niveau des oreilles. Je pense que c'est des bouchons de cire.
Je dirais que c'est une texture qui permet aux oreilles de protéger.
Jaunâtre très foncé en fait, jaunâtre marron.
Et ça peut toucher ton tympan.
Bah ça empêche d'entendre correctement, donc c'est plutôt désagréable que mal.
Soit par un mauvais nettoyage des oreilles au coton-tige, qui fait que du coup, au lieu de nettoyer, on repousse en fait les saletés au fond.
Donc il faut consulter. Et avec une espèce de petite poire ou je sais pas quoi là qui aspire.
Et on va dire un petit aspirateur, c'est une tige en fait qui met dans l'oreille. Mal non, en fait, moi je dirais que ça fait pas mal, c'est pas agréable en fait, c'est désagréable en fait.
Alors, il y en a qui connaissent hein, le débouchage d'oreilles. Jimmy, je vous apprends rien. Alors, c'est quoi c'est le bouchon de cérumen finalement? Est-ce que c'est vraiment de la cire d'abord? De quoi c'est formé finalement?
Ah, la cérumen, c'est extraordinaire.
On dit la cérumen
Le cérumen, peu importe. Bon, en tout cas, ça vient de latin cera qui veut dire cire. Ah, c'est pour ça qu'on parle souvent de cire.
Alors, du miel, on dit. Il y en a qui disent du miel aussi.
Un miel au goût un peu particulier. Je sais pas si vous avez déjà goûté.
Non,
mais... Alors, c'est une substance, qui est produite par des glandes qu'on appelle les glandes cérumineuses qui vont produire ce cérumen qui va être mélangé avec des corps gras, des acides aminés, des minéraux.
Oh, c'est bon en fait pour la santé.
On va
à manger,
rajouter exactement un peu de sébum qui va être sécrété par les glandes sébacées. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces glandes cérumineuses, lorsqu'elles vont produire ce cérumen, eh bien, il y aura des cellules musculaires qui vont se contracter pour expulser cette cire. Et former parfois ce petit bouchon qui peut nous embêter.
Alors vous dites, hein, ça fait parfois des bouchons, on va y venir, mais si on en produit naturellement, alors il y a bien sûr les petits et les gros producteurs, est-ce que ça a une utilité physiologique, hein, je ne sais pas, ça sert à quoi?
Une triple fonction.
La
première fonction, c'est la lubrification du conduit auditif. Vous n'avez pas de cérumen, votre peau va être beaucoup plus fragile, vous allez faire parfois de l'eczéma et donc une irritation. Donc on a besoin de cérumen.
C'est utile, moi je crois que c'était juste dégoûtant, mais non, c'est utile.
Ça lubrifie, ça protège, ça permet d'avoir une barrière à la fois chimique et physique pour empêcher justement des corps étrangers, de la poussière ou des petites bactéries de pénétrer.
Filtre quoi. Hein,
c'est exactement. Ça. Et la dernière fonction, c'est celle d'auto-nettoyage. Vous avez des cellules qui vont être produites grâce au cérumen, les cellules de la kératine qui vont s'y renouveler, donc la cérumen. Ou le cérumen, ça sert à quelque chose.
Alors, parfois, il va causer donc des bouchons. Je crois que ça peut venir notamment, je voulais vous demander quelle est la cause, mais ça peut venir d'une mauvaise utilisation des cotons-tiges, hein, je crois.
Exactement. Alors, il peut y avoir des gros producteurs de cérumen, d'autres un peu moins, notamment chez les enfants, mais ce n'est pas très grave, il faut les laisser tranquille. Et effectivement, si vous utilisez des cotons-tiges un peu n'importe comment...
Trop souvent, trop profond.
Exactement.
Ouais.
Et puis parfois, on peut avoir des prothèses auditives qui vont accélérer la production de cérumen ou des baignades qui vont justement contribuer à faire une otite derrière ce bouchon.
Et donc, Jimmy, c'est un peu insidieux. On ne sent pas toujours qu'on a un bouchon. Comment on s'en rend compte? Quand est-ce qu'il faut finalement? Est-ce qu'on a des symptômes qui doivent dire tiens, il faut aller chez l'ORL, il y a peut-être un bouchon?
Principalement deux symptômes. Le premier, c'est le fait de moins bien entendre. Si jamais vous avez un bouchon obstruer justement le conduit auditif, eh bien, l'onde sonore va moins bien pénétrer. Donc c'est parfois des enfants chez qui on va devoir répéter. Et puis le deuxième, c'est que derrière ce bouchon, de l'eau peut stagner et donner une otite, donc une douleur de l'oreille peut révéler un bouchon de cérumen.
Alors comment on le dissout soi-même, ce bouchon, si c'est possible? Et puis sinon, quand on passe à l'attaque chez l'ORL, comment ça se passe?
Alors parfois avec simplement le pommeau de douche, en mettant de l'eau chaude dans l'oreille, pas trop chaude pour ne pas se brûler, ça peut se dissoudre. Ouais. Il existe des gouttes à la pharmacie qui permettent de le dissoudre. Et puis sinon, c'est l'ORL qui peut l'aspirer avec un petit aspirateur à cérumen, c'est fantastique.
Ça fait mal ça, non?
Non, c'est pas douloureux, ça fait même du bien, des fois on se débarrasse. Ou une petite curette. Il va gratter, enlever ce cérumen.
Par morceau, petit morceau, hein, le bouchon, c'est
et
ça.
Il peut vous le mettre dans une petite boîte, vous repartez avec à la
génial,
maison.
Génial, c'est cadeau.
Vous le mettez dans la soupe, vous allez voir, c'est un goût extraordinaire.
Plein de nutriments. Merci beaucoup, c'est une blague, hein, évidemment, au cas où il y en a qui auraient l'idée de le faire vraiment. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions et même ces blagues hein, culinaires.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est bien sûr sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on va parler d'une grande thématique autour des personnes maniaques, à savoir si ça peut poser des problèmes pour être en couple finalement. C'est vrai qu'être avec quelqu'un qui a un accro de la propreté ou qui a des tocs un peu dans le genre, enfin, ça peut être un peu compliqué amoureusement parlant.
Tout dépend avec qui est cette personne, parce qu'en général, les gens qui s'assemblent, s'assemblent aussi sur des valeurs communes et sécurisantes. Donc, quelqu'un qui est très maniaque peut être justement la sécurité de qui a besoin que ce soit pris en charge. Par exemple, ou qui est maniaque, pareil, mais souvent qui a
j'aurais adoré être avec un maniaque, je crois. Non, enfin, je sais pas, je dis ça parce que vous avez compris.
Vous avez effectivement des gens qui vont trouver de merveilleux que le maniaque prenne tout en charge et ce qui sera une sécurité pour eux aussi, sans pour autant qu'ils aient besoin de s'y adonner, s'adonner au rangement, nettoyage et autres. Maintenant, après, de quoi parlons-nous, maniaque ou maniaque?
Oui, c'est-à-dire
le maniaque tel qu'on peut l'entendre d'un point de vue.
Qui veut juste que tout soit propre et nickel, quoi. Ouais.
Voilà, donc il y a la pathologie et puis il y a celui qui veut juste que ça soit propre, sauf qu'il est face à quelqu'un qui n'aime pas du tout ranger.
Qui est bordélique.
Et qui, du coup, trouve que c'est maniaque de ranger, alors que ce peut être quand même assez normal.
Mais toujours
assez
le maniaque
agréable.
De quelqu'un, alors peut-être non,
oui, c'est ça. On peut être toujours un peu plus obsessionnel que quelqu'un qui, lui, a une autre obsession, c'est foutre un peu le bordel.
Jimmy, vous êtes maniaque, bordélique?
Oh, je ne suis pas maniaque du tout, donc je vous laisse deviner ce que je suis. Non. Mais comment est-ce qu'on explique que certaines personnes vont apprécier la propreté, ce qui est plutôt normal, et d'autres vont aller dans cet extrême? Est-ce que c'est quelque chose qui se crée dans l'enfance? Est-ce qu'on devient maniaque
à force, je sais pas, d'être avec des gens maniaques. Quelle est l'influence de l'environnement justement dans ce trait de personnalité? Ou encore là, c'est presque de la pathologie quand on parle vraiment de maniaque jusqu'au boutiste.
Alors, il y a effectivement une partie qui est une partie culturelle, parce que le fait de ranger, le fait que ce soit propre, tel que ça, on a pu éventuellement le recevoir en termes d'éducation.
Moi, j'ai eu une mère assez maniaque, mais je crois qu'elle n'a pas transmis ça non plus. Hein.
Voilà, mais ça peut être simplement parce que c'est une invitation à savoir ranger, ordonner, offrir un lieu où on peut inviter, parce que mettre du désordre, c'est aussi envahir l'espace de soi pour ne pas laisser l'espace des autres rentrer dans cet espace. Donc, savoir ranger, on a tendance aujourd'hui à dévaloriser même l'apprentissage chez les jeunes du rangement, l'apprentissage chez les jeunes filles en particulier, parce qu'on veut les enlever, leur enlever cette idée qu'hier, elles devaient être des bonnes épouses et des bonnes ménagères, donc. Et donc, d'être tout un jour très, très rangées, très soignées. Du coup, aujourd'hui, on pêche un peu à l'inverse. Si bien qu'elles n'ont pas la compétence toujours d'ouvrir le champ des possibilités de relations et de faire rentrer en elles, d'abord, leur chambre, leur espace, et puis en elles, dans leur corps, avec une vision un peu bordélique, sale, souillée, etc.
Mais on est d'accord que ces problèmes de maniaque, de ménage, c'est des choses quand même qui reviennent souvent dans les couples, hein, qui peuvent poser problème vraiment quand même. Il y a des disputes, il y a beaucoup de disputes autour de l'organisation de la maison, de ranger, de tes maniaques, pas maniaques, tu laisses traîner. Ça revient souvent quand même.
Oui, donc on voit bien que nous ne sommes pas en train du tout de parler de la pathologie, d'être maniaque, mais bien de l'organisation de l'espace, du territoire et de marquer son territoire. Entre ceux qui passent leur temps, entre ceux ou celui ou celle, mais c'était souvent celle, mais maintenant c'est l'un ou l'autre, qui va passer son temps à nettoyer la place souillée par l'autre. Souillée, encore une fois, c'est une chaussette, une chaussure,
rien de très grave,
etc.
Non plus, bien sûr.
Donc c'est comme un espace pour s'approprier, avoir une place pour chacun. Alors, entre un qui a l'impression d'être effacé parce qu'on enlève ses affaires et l'autre qui a l'impression d'être envahi. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez bien que généralement, c'est le féminin qui se sent envahi et c'est le masculin qui se sent effacé. Donc, on est bien dans un rapport contenant-contenu, du contenant qui veut retrouver son espace à soi et effacer la trace de l'autre, et l'autre qui veut absolument pouvoir prendre sa place et ne pas être effacé, ne pas être castré. Donc oui, c'est un peu symbolique.
C'est pour
mais
ça que vous laissez
bien
traîner vos chaussettes alors, Jimmy. C'est marquer votre territoire.
On s'occupera de votre cas après, Madame Gomez. Est-ce qu'on peut être maniaque dans les rapports sexuels? Est-ce que c'est des gens qui vont faire attention à certaines choses? Je ne sais pas, plus d'hygiène, moins de contact peut-être? Est-ce que ça peut se traduire aussi?
Oui, bah alors là, on est dans l'aspect plutôt pathologique, c'est-à-dire une perception de la sexualité comme étant
quelque chose de sale,
sale et parce que ça renvoie à une idée agressive, puisque comme la pulsion sexuelle est un élan, eh bien cet élan est confondu avec un élan d'agressivité, et tout ce qui est perçu comme étant agressivité est perçu comme étant coupable ou sale. C'est ce qu'on faisait quand on imaginait que les maladies, c'était des saletés, c'était des souillures, c'était du sang noir qu'il fallait sortir du corps. Eh bien, la pulsion sexuelle est interprétée de cette même façon. Donc, effectivement, vous avez des gens qui vont pouvoir aborder la sexualité, mais qu'à condition d'essayer de lui enlever tout son aspect coupable, donc fantasmatique. Et comme évidemment les fantasmes, ils sont là tout le temps et ils sont le moteur de la sexualité, eh bien ça se fait sur un plan, c'est reporté sur un plan d'hygiène en disant nettoie-toi, tu sens pas ceci, tu sens pas cela, tu sens pas le savon. C'est-à-dire même l'odeur du corps, même l'odeur d'une transpiration normale, eh bien est perçue comme étant quelque chose de dégradant de l'autre qui montrerait une certaine perversité de sa sexualité pour effacer finalement, c'est une sorte de tentative d'effacer la sexualité de la sexualité. Ce qui est quand même évidemment bien impossible.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour. Oh Stéphane, vous ne prenez pas votre petit accent aujourd'hui?
Je suis très content aujourd'hui parce que nous avons une émission spéciale pour quelqu'un que nous adorons qui est mort malheureusement il y a 2 ans, c'est Karl Lagerfeld.
Oh, vous faites super bien.
Il le fait parfaitement. Ouais. Il faut dire qu'il l'a côtoyé, nous aurons.
Je veux bien être gentil, mais je veux pas que ça se...
Oh, mais il le fait tellement bien!
C'est le thème de notre émission, Mélanie, aujourd'hui. Ceux qui ont côtoyé Karl Lagerfeld de près. Donc, en plus de Stéphane Bern, nous parlerons de qui?
Du grand couturier Pierre Balmain, c'est l'élégance à la française. De son amant, celui qui a été plus que son amant, d'ailleurs, sa seule véritable histoire d'amour, c'est Jacques de Bachère. Et vous allez nous parler d'une autre histoire d'amour de Karl Lagerfeld.
Quelqu'un qui l'a beaucoup caressé et à qui il a légué, apparemment, d'après ce qu'on dit, beaucoup d'argent, c'est Choupette. sa chatte.
Je me demandais qui c'était, je me dis mais qui est Choupette.
Et nous aurons également la chance d'avoir dans l'émission Sébastien Jondot qui publie un très joli livre, un hommage, il a été son homme de confiance pendant 20 ans. Ça va Karl?
Pour une fois je suis intéressée par Choupette hein, parce que je préfère les personnages de Stéphane d'habitude.
Oui. Et là Choupette,
mais
vous
là, Choupette je suis vraiment intriguée.
Vous allez voir, c'est une belle histoire. Et je peux vous dire que Choupette gagne plus d'argent que vous. Vous allez être étonnés.
Allez, on va y rester évidemment pour écouter les histoires de Choupette et des autres. Restez bien sur Europe 1.